Le psaume 67, nous avons eu ce psaume la semaine dernière pour notre lecture quotidienne par rapport au plan qu'on suit. Donc, je ne vous demande même pas si vous avez lu ce psaume. Mais c'est un petit psaume de 8 versets, hein, psaume 67. Il était dit, quand j'ai lu les différents commentaires, il y en a un qui disait que Martin Luther a écrit des volumes sur les psaumes. Je ne sais pas si c'était exactement verset par verset, mais c'était quand même, il prenait chaque psaume et il faisait un commentaire sur tous les psaumes, sauf celui-ci. Et personne, il n'y avait pas de raison pourquoi. Dans ces volumes de commentaires de Martin Luther, il est allé du psaume 66 au psaume 68. Et je ne sais pas. Mais pour nous, on va prendre le temps de voir ce psaume 67 ensemble et voir qu'est-ce que le Seigneur pourrait nous enseigner à travers ce psaume. Et donc, commençons à en lire ces huit petits versets ensemble. Il dit au chef des chantres avec instrument à cordes, psaume cantique. Donc, c'était un psaume poétique qui devait être chanté avec instrument pendant qu'il disait ces versets. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face, pause, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre, pause. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Alors, pas mal de choses pourront et vont être dites hein, sur ce psaume, mais pour nous plus précisément, on va se focaliser sur un verset, sur une vérité qui se trouve dans ce psaume. C'est que peu importe les difficultés auxquelles on doit, qu'on va passer, que nous allons connaître, peu importe même notre propre faiblesse, peu importe les attaques que nous subissons, et on pourrait continuer la liste de les différents scénarios potentiels, peu importe ce qui nous arrive, nous avons un espoir qui devrait transcender toutes ces choses. À cause de ce verset 7 et du début du verset 8, où dit la terre donne ses produits, mais Dieu, notre Dieu, nous bénit, Dieu nous bénit. Et le fait de pouvoir dire Dieu, notre Dieu, n'est jamais quelque chose qu'on devrait pouvoir lire en passage comme si ce n'était rien. Et le pouvoir d'appeler Dieu, notre Dieu, devrait faire toute la différence. Ça devrait apporter une joie, un réconfort de savoir que le seul et unique Dieu qui existe, il est le mien, il est à moi. Quelle paix de savoir que Dieu n'est pas un Dieu qu'on doit constamment apaiser, qu'on doit constamment trouver, qu'on doit constamment en train d'essayer de gagner sa faveur, mais il est déjà notre Dieu. Ce terme, un notre Dieu, revient plus ou moins 209 fois dans les Écritures, où encore d'une manière plus intime, le terme mon Dieu revient en plus de cela 152 fois. Je crois qu'il a voulu, et ça va aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dieu a voulu très clairement démontrer et nous faire réaliser qu'il n'a jamais, jamais eu l'intention d'être un Dieu lointain et distant. C'est personnel, c'est intime, c'est proche. Dieu est notre Dieu parce que c'est lui qui en a fait le choix. C'est lui qui a choisi d'être un Dieu proche, de venir à nous. Peu importe à quel point nous on aurait voulu s'approcher de Dieu, toute tentative serait inutile et vouée à l'échec si Dieu n'avait pas d'ores et déjà d'abord fait le choix de venir à nous ou d'être au moins approchable. Si elle avait voulu rester distant, éloigné, peu importe ce qu'on aurait voulu faire, on n'aurait jamais pu s'approcher de lui. Mais Dieu, depuis la fondation du monde, depuis la création, Il a toujours eu la volonté de marcher avec l'homme. On le voit avec Adam et Ève. Il a toujours eu la volonté d'être un Dieu personnel, de ne pas seulement être le Dieu de la création, mais il a toujours eu la volonté d'être notre Dieu. Et ceci était vrai pour le peuple d'Israël et ceci est toujours vrai pour tout chrétien aujourd'hui. Illustration, hein, c'est, si nous faisons, nous-mêmes nous faisons une différence entre une belle maison et notre maison. Suzanne et moi avons eu l'occasion, à travers nos différents voyages et les personnes que nous connaissons, d'être invités dans de très très belles maisons, hein, bien plus grandes, bien plus belles, bien mieux entretenues que la nôtre. Mais il y a quelque chose quand on revient à notre maison, parce que c'est la nôtre. Et c'est la même chose, hein. On rencontre des enfants qui sont doués, ils sont sympathiques, ils sont beaux, ce que vous voulez, mais il y en a qui portent le même nom que nos enfants, mais quand on parle de notre enfant, ben ça change tout, parce que c'est le mien, c'est notre enfant. Pourquoi est-ce que ça ne devrait pas être pareil? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas toujours cette même façon de regarder la chose quand Dieu, c'est Dieu qui est en train de nous dire, je suis ton Dieu, à toi. Dieu, notre Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, c'est pas, on ne parle pas de tous ces faux dieux qui existent, de toutes ces idoles qui existent, de toutes ces choses qui, la Bible dit, qui ne peuvent rien faire pour nous, mais notre Dieu. Pourquoi est-ce qu'on regarde cela à la légère, comme si c'était quelque chose de, oh ben, c'est pas si important que ça. Et le fait d'être le nôtre change tout. Et avant notre salut, nous avions connaissance de Dieu, comme pour beaucoup de personnes. Mais après notre salut, il est devenu notre Dieu. Avant notre salut, c'était un Dieu. C'est Dieu qui existe. On a une certaine connaissance, une certaine compréhension. Mais après le salut, ça a tout changé. Il est devenu personnel. Il est devenu intime. Et même notre façon de voir et de regarder Dieu a changé. Que la manière qu'on voit et qu'on regarde, qu'on lit sa parole a changé d'avant et après notre salut. Parce que Dieu n'est plus ce Dieu distant, mais il s'est révélé à nous. Et on l'a accepté sans douter de sa personne et il est devenu notre Dieu. Pas juste le Dieu des chrétiens, mais mon Dieu à moi. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça pourrait avoir, parce que j'ai mentionné un peu en passant le mot que je voulais mettre l'emphase par rapport à ce que ça devrait nous apporter, c'est cet espoir justement. On avait commencé en disant que malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré notre faiblesse, tout ça, ben tout cela, nous avons un espoir qui transcende toutes ces choses. Et cet espoir, elle vient du fait à cause que Dieu est justement notre Dieu. Et c'est parce que le Dieu est nôtre qu'il a choisi de nous bénir, qu'il, comme il le dit dans ce passage. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Ce psaume parle de louange, il parle de bénédiction et ça devient également une requête de prière. Le mot béni, même rien que dans ce petit psaume, revient 3 fois et loué 4 fois. Et Dieu ne nous bénit pas, et on doit le comprendre, parce qu'on le mérite. Parce que nous avons bien suivi les ordres et que, bon, maintenant, voici ton cadeau pour avoir obéi. Ce n'est pas comme cela que Dieu agit. Parce que sinon, sa grâce et sa miséricorde ne trouveraient pas leur place là-dedans. Il nous bénit parce que nous lui appartenons. Parce qu'il est notre Dieu. Et du fait qu'il est le nôtre, si ce n'est rien d'autre, nous sommes bénis de ce qu'il est notre Dieu. Nous avons la meilleure personne. On le fait avec les gens qu'on connaît du monde. Ah, toi, tu connais tel et un tel. Ah, moi, je ne le connais pas. Ah, en plus, vous êtes amis. Waouh, c'est, ils ne vont pas utiliser le terme, mais quelle bénédiction pour vous. Parce que moi, j'aimerais bien connaître. Ça peut être quelqu'un d'important dans la ville. Ça peut être un athlète. Ça peut être quelqu'un, je ne sais pas quoi. Mais ah, tu connais. J'entends toujours encore des gens le poster sur Facebook, dire « Ah ben, moi j'ai connu, j'ai serré la main de tel ou un tel, et ben, c'est bien pour toi. » Je suis heureux pour toi. Mais ils le voient comme cela. C'est une bénédiction pour eux. Ils sont, j'ai quelque chose parce que cette personne est spéciale et moi, j'ai pu avoir une audience avec cette personne. Il y en a qui le font pour les chefs d'État ou pour, à l'époque, la reine d'Angleterre. Hein, j'ai eu, ah, c'est pas n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'on va prendre cela comme étant plus important que moi? J'ai un Dieu qui est le mien. Il n'est pas distant. C'est mon Dieu. Et rien qu'à cause de cette vérité-là, je suis déjà béni. Imaginez qu'ils nous disent, je suis contre toi. Bon, là, on n'aura pas là, mais ça, c'est une toute autre prédication. Pour certains, principalement les inconvertis, ben, Dieu reste Dieu, mais Dieu devient leur juge. Ils se tiendront devant Dieu, ils le reconnaîtront pour qui il est à ce moment-là. Mais Dieu leur dira, ben, vous m'avez rejeté, vous n'avez pas accepté le sacrifice de mon fils pour votre salut, et donc, je ne suis pas votre Dieu, retirez-vous de moi, et ils seront jetés en enfer. Alors que pour nous qui avons accepté ce salut que Dieu offre, et qui puissent déjà dire maintenant, aujourd'hui, je suis ton Dieu, il est notre Dieu. On n'a pas à craindre à ce moment quand on se tiendra devant lui. Mais encore une fois, hein, pour nous chrétiens, voyez la conviction, hein, voyez le manque d'inquiétude, voyez le manque de doute dans cette petite phrase quand il dit Dieu, notre Dieu, nous bénit. C'est une affirmation qu'il donne. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une espérance qui se tient sur quelque chose de faible, mais c'est une certitude qu'il affirme. C'est quelque chose qui devrait nous encourager, nous motiver et certainement nous donner espoir. Le monde dit que l'espoir fait vivre, n'est-ce pas? L'espoir fait vivre parce que tant qu'il y a l'espoir, c'est bon, on tient bon. Mais pour nous chrétiens, où se trouve notre espoir? Dans ce que Dieu répondra à nos requêtes comme nous le voulons? Dans le fait que les choses se passent comme nous, on aimerait qu'elles se passent? Ou est-ce qu'elles se trouvent tout simplement dans la personne même de Dieu? Pas dans ses réponses, pas dans la façon qu'il pourvoit, juste en Dieu lui-même. Ça me suffit de garder espoir, parce qu'il est mon Dieu à moi. Et je voudrais juste regarder à deux choses très très simples. Ben, De quelle manière cet espoir que nous avons dans la personne de Dieu, du fait qu'il est mon Dieu, qu'il est notre Dieu et qu'il nous bénit, devrait enlever bah, toutes les choses qui seraient le contraire de notre espoir, qui devraient être l'ennemi de l'espérance, la crainte, la peur, le doute, toutes ces choses. L'espoir enlève tout cela. L'espoir enlève toutes les questions que l'on se pose, telles que Dieu va-t-il? On se pose ces questions parfois, mais on a toujours tort de le faire. La peur et la crainte est un problème qui est parfois difficile à surmonter, parce qu'elle survient de manière tellement variée. Hein, c'est pas tout le monde a peur des mêmes choses, et pas tout le monde a peur des mêmes choses de la même intensité. Certains, on le sait, ils ont peur du feu. Ouais, certains ont peur des insectes ou des oiseaux, des araignées, des serpents. Certains ont peur de l'eau. Hein, certains ont peur des hauteurs, des petits espaces. Et la liste, on n'aurait pas assez dans toute cette journée de faire une liste de toutes les choses dont les gens ont peur, parce qu'il semblerait que chaque semaine, il y en a des nouvelles qui s'inventent. Moi, je me rappelle quand on mettait nos enfants à l'école au collège, le directeur de l'école nous disait, oui, nous, moi, j'ai un élève, son docteur lui a écrit une lettre pour dire pourquoi il ne vient pas à l'école parce qu'il a une phobie du collège. Une phobie du collège. Bon, qu'est-ce qu'on va inventer encore, mais qu'il y a une crainte dans sa vie quelque part, mais que ce soit juste libellé du collège, ça me semble un peu vague. Mais oui, il y en a qui ont peur des chauves, On pourrait continuer la liste de choses, hein, et c'est. Et parce que nous, ça ne nous fait pas peur. Peut-être plus peur d'être chauve que des chauves, mais pour eux, ils ont une vraie peur. Et c'est ça qui est la difficulté avec la peur et la crainte. Ce n'est pas parce qu'une certaine chose ne me fait pas peur à moi qu'elle n'a pas le droit de faire peur à l'autre. Et parfois, il y a certaines choses qui nous font plus peur que d'autres quand les circonstances sont adéquates. Hein, souvent, quand elles nous prennent au dépourvu, ce n'est pas la chose elle-même qui nous a fait peur, mais c'est le fait qu'on ne s'y attendait pas. L'exemple tout bête, hein, c'est je me cache derrière la porte et vous passez, je vous... Bouh! Bon, d'accord, c'est l'effet de surprise, c'est le fait que vous n'y attendez pas qui fait peur. Ce n'est pas le bruit, ce n'est pas moi. Si je vous vois venir là et j'avance vers vous tout doucement, je dis « Oh, oh !» en avançant, je dis « Qu'est-ce que ça va pas? Il est pas net. » Mais ça ne fait pas peur, sauf que peut-être pour ma santé. Mais des fois, et pour beaucoup de chrétiens, on a ce genre de crainte aussi. Ce n'est pas le problème qui est survenu. C'est le timing, c'est le moment. Ça nous a pris au dépourvu, ça nous a déstabilisé, ça nous a... on s'y attendait pas. Et une peur que pratiquement tout le monde a en commun, il y a juste l'intensité de cette peur qui change, c'est celui d'un avenir incertain. C'est toujours la question de et demain, et si, et si ceci arriverait. Et ensuite, il s'imagine les pires scénarios. Et ensuite, il y a encore et si ce qu'on espère n'arrivait pas? Et là encore, ils imaginent le pire scénario. Beaucoup perdent même leur sommeil sur un avenir dont ils ont peur, malgré le fait que toutes les choses auxquelles ils pensent, pour la grande majorité, n'arrivent jamais. Pour les chrétiens, nous avons les problèmes et les craintes de la vie, mais au lieu de se laisser aller ces craintes, on ne devrait pas pouvoir aller au point où on perd espoir. Pourquoi? Parce que notre espoir ne se trouve pas en nous-mêmes et dans ce que le fait que les circonstances s'alignent avec notre façon de penser. Notre espoir ne se trouve pas dans l'espérance que les circonstances mêmes vont changer. Demandez, on a plein d'exemples dans les Écritures de personnes qui étaient dans des circonstances extrêmement désagréables et Dieu ne les en a pas sortis. Il disait, si ce n'est rien d'autre, il a mis d'une situation désagréable à une autre. Et parfois, oui, ils en ont sorti. Mais une fois que la situation était finie, et à d'autres moments, il a arrêté, il a calmé la tempête tout de suite. C'est Dieu qui choisit. Mais d'une manière ou d'une autre, que Dieu choisit de calmer notre tempête tout de suite, que Dieu choisit de nous faire traverser la tempête et ensuite nous donner ce dont on a besoin après, ou qu'il ait choisi de nous faire d'une tempête à une tornade, libre à lui. D'une manière ou d'une autre, on n'a pas le droit de perdre espoir, parce que notre espérance ne se trouve pas dans les circonstances ou dans ce que les circonstances vont changer, elle se trouve dans le fait qu'il est notre Dieu. Et je sais qui il est. Quand on se rappelle que Dieu est mon Dieu, il est notre Dieu, ben on est obligé de se rappeler de tous ses attributs, de ses traits de caractère, de qui il est. Notre espoir vient du fait que Dieu s'occupera de nous, qu'il va nous bénir. Pas parce qu'on le mérite, mais dans sa grâce, Dieu prendra soin de nous. Nous n'avons pas le droit de faire avec Dieu ce que nous faisons avec nous-mêmes ou avec les circonstances. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de dire, et si Dieu ne faisait pas comme il a promis? Ou encore, et si Dieu était en retard dans ses bénédictions? Ou encore, et si Dieu se trompait et ne me donne pas la bénédiction dont j'ai besoin là à l'instant? On n'a pas le droit de rabaisser Dieu à notre niveau. Nous, on fait ça. On fait ça l'un envers l'autre, on fait ça avec nos circonstances, mais on n'a pas le droit de faire ça avec Dieu. Cette promesse que Dieu nous donne de nous bénir est une promesse qui devrait pouvoir chasser nos craintes et nos peurs. Il bénit, pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il est notre Dieu et pour aucune autre raison que celle-là. 2 Corinthiens 9, 8 nous dit, Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ensuite, c'est à nous d'avoir cette foi qui lui permette, cette confiance, de ne pas perdre cet espoir, de pouvoir remettre les choses dans leur ordre et dans la bonne place et dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas comment, mais je te fais confiance. Je sais que tu es là, je sais que tu ne m'abandonnes pas, je sais que tu ne vas pas m'enduire en erreur non plus. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés, on n'aura pas de problèmes très désagréables, mais des choses ne seront jamais plus fortes, plus importantes ou dominantes dans ma vie que les bénédictions de Dieu. Alors parfois, on fait de ces choses, on y apporte plus d'attention à nos problèmes et à nos difficultés. Mais elle ne devrait pas avoir une plus grosse influence que les bénédictions que Dieu nous donne quotidiennement, régulièrement. Dieu est notre Dieu. Il n'est pas ignorant de notre situation. Il n'y a pas de situation qu'il lui soit impossible d'utiliser pour notre bien. Dieu est en contrôle et Dieu est notre Dieu. Et il veut, il aime nous bénir. Comment rester désespéré et ne pas retrouver l'espoir et la confiance quand nous nous rappelons que Dieu est notre Dieu et il veut nous bénir. L'espoir voit les problèmes présents avec la vue des promesses à venir. La crainte et la peur mettent l'accent sur le moment présent, n'est-ce pas? Quand on est face à une situation difficile, même désagréable, on se focalise sur le maintenant. Parce que le problème, il est là. Il est devant moi, il est présent. Et Dieu ne dit jamais qu'on doit ignorer ses problèmes. Mais les difficultés du moment présent, les problèmes que je dois faire face aujourd'hui ne changent en rien que Dieu est mon Dieu. Et que je sais, pas que j'espère, mais que je sais qu'il va bénir, qu'il va s'occuper de moi. Il ne va pas m'oublier. Ce n'est pas, pour dire comme le monde, ce n'est pas parce qu'il pleut, ni même qu'il y a un orage, que le soleil n'est plus là. Ce n'est toujours qu'une question de temps avant que le soleil ne réapparaisse. Et ce n'est pas parce que je suis en plein milieu de mes problèmes, de mes difficultés, que je ne vois pas la sortie, que Dieu n'est pas là non plus. Et ou que Dieu a changé. Ou que Dieu est moins fort, que moins puissant, ou moins compatissant. Combien de fois est-ce qu'il nous dit dans les psaumes, attendez et voyez, laissez Dieu agir, voyez comme il est bon, attendez, espère en l'Éternel et vois, attends avec cette heureuse espérance de savoir que Dieu est fidèle et juste. Pourquoi? Parce qu'on le mérite aucunement, mais parce qu'on lui appartient. Il est notre Dieu. Il ne reste pas indifférent à ce qui lui appartient. Parce que nous savons que Dieu est fidèle. À plusieurs reprises, Dieu nous encourage à garder les yeux sur lui à travers les Écritures. Pas sur les circonstances du monde présent. Il ne dit pas de les ignorer, mais il dit de ne pas faire de ces problèmes présents notre seul objet. Il dit de ne pas vous focaliser sur vous seulement non plus. Mais combien de fois est-ce qu'il nous dit de placer nos yeux et notre regard sur lui? Psaume 123, par exemple, nous dit « Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Tiens, pitié, on reviendra à ce mot parce que ce psaume commence avec ce même mot. Il dit que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Encore une fois, rien de notre mérite, mais parce que nous lui appartenons. L'espoir donne des convictions qui remplacent les émotions de la crainte. Écoutez bien ce qu'on dit. C'est que l'espoir donne des convictions, quelque chose de sûr et de ferme et de solide, qui remplace. Quand on remplace quelque chose, il y a une chose qui était là, on l'enlève et on met autre chose à sa place. Ce qui était là, on s'en débarrasse. Elle n'est plus là. Elle n'a plus... le mot maintenant m'échappe. D'influence. Donc, cet espoir que nous avons en Dieu, elle remplace la crainte qui était là. Cette crainte qui, ou même pas seulement la crainte, juste les émotions de la crainte. Parce que la peur et la crainte, encore une fois, se basent sur un avenir incertain. Je vois le problème présent et je ne peux que imaginez tout ce que ça va engendrer derrière, les scénarios possibles, sur des peut-être et des si, alors que notre espoir, notre délivrance se trouve, encore une fois, pas dans ce que Dieu va pourvoir à ce besoin comme moi je le veux, mais dans la personne même de Dieu. Je sais que Dieu ne peut faillir. Je sais que Dieu ne peut mentir. Je sais que Dieu ne peut être autre chose que fidèle. Les doutes n'ont pas leur place quand il s'agit de Dieu. Ses attributs, sa parole, sa volonté, son caractère, on ne peut pas douter de ces choses-là. On peut douter des miennes et de l'homme, oui, parce que l'homme s'est démontré comme étant pas fiable et pas fidèle. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous puissions le rabaisser à notre niveau et dire que, et mettre en doute qui il est lui, tous ses attributs. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. On le dit, mais ça veut dire que ses attributs le sont aussi. Que Dieu est parfait, qu'il a toujours été parfait, il sera toujours parfait. Et donc, peu importe le problème dans lequel je passe, les difficultés auxquelles je passe, les questions que je me pose, Dieu est parfait dans sa réponse envers moi. Parfait dans son timing, parfait dans la manière qu'il pourvoit, parfait dans la manière qu'il s'occupe de moi. Il est parfait dans sa nature, il est parfait dans son amour, il est parfait dans ses décisions, il est parfait dans sa justice, et il est parfait dans sa fidélité. Comment ose-moi, à cause de mes émotions, de ce que je fais, de ce par quoi je suis en train de passer, mettre en doute sa perfection, son amour, sa personne. C'est la personne même de Dieu qui chasse tous les doutes, toutes les craintes, toutes les peurs. Il est impossible que Dieu ne puisse pas réussir. Il est impossible pour lui de faillir. Rien n'est plus grand, rien n'est plus puissant que Dieu, puisque c'est Dieu qui a choisi d'être notre Dieu et que c'est Dieu qui a choisi de nous bénir, on peut reprendre espoir. Ça ne chasse pas tous les problèmes qui sont devant nous, ça n'enlève pas les difficultés en elles-mêmes, mais ça nous redonne cet espoir dont on a besoin pour garder la tête haute, garder les yeux sur lui et continuer et ne pas nous laisser abattre. Je ne peux pas avoir des doutes dans mon cœur ou dans mon esprit, tout en professant de faire entièrement confiance en Dieu. De dire qu'on fait confiance en Dieu, ça ne va pas suffire. La foi sans les œuvres est morte, la Bible nous dit, elle est inutile. Si je fais réellement confiance en Dieu, je laisse sa présence chasser mes craintes et mes doutes, parce que c'est lui mon espoir. Alors, j'aimerais que vous regardiez de nouveau avec moi ce psaume, on va voir quelques vérités très, très rapide par rapport à chaque verset, plus ou moins que chaque verset qu'on y trouve, sauf le verset 7 auquel sur lequel on se focalise. Mais jusqu'à présent, on s'est focalisé sur ce seul verset qui est plus que suffisant en lui-même. Mais on pourrait n'en faire qu'un petit survol. Mais le verset 2 nous dit que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Pause. Bon, et chaque fois que vous voyez ce mot pause dans les psaumes, oui, c'était aussi bien instrumental pour les chants, vu qu'il devait être chanté et joué, mais ce mot avait également pour compréhension pour le peuple juif de s'arrêter pour réfléchir sur les mots qu'on vient de dire. Alors, ça c'est juste l'anecdote pour chaque fois que vous lisez les psaumes. Mais ce psaume commence tout de suite avec cet esprit d'humilité. Il reconnaissant ses fautes, il dit que Dieu ait pitié de nous. Il ne dit pas « donne ce qu'on mérite ». Il demande le contraire. Et il demande à Dieu de faire preuve de pitié. Toute église et tout chrétien serait bon d'avoir cette même attitude quand on se présente devant Dieu. Ne pas excuser nos péchés et manquements, ne pas les ignorer et continuer à vivre comme si de rien n'était. Mais Seigneur, je ne mérite rien. Fais-moi miséricorde. Fais-moi encore preuve de grâce. Mais aussi reconnaître que Dieu n'est pas obligé de me pardonner. Je ne mérite pas d'être pardonné juste parce que j'ai demandé pardon. Juste parce que j'ai reconnu mes torts, ça ne veut pas dire que je mérite son pardon. Je ne demande pas à ce que Dieu me fasse justice. Seigneur, je reconnais mes torts, je demande pardon, maintenant fais-moi justice. Mais qu'il me fasse grâce, qu'il me montre de la pitié parce que je mérite d'être puni. Et que je ne mérite pas les bénédictions. Ce mot pitié, dans l'original, pourrait également être traduit par le mot miséricorde, de ne pas donner ce qu'on mérite, La définition littérale de ce mot serait de bien vouloir s'abaisser avec gentillesse ou bonté envers une personne inférieure. Ça, c'est la traduction littérale de ce mot pitié dans l'original. De quelqu'un de plus haut classé, de meilleur que moi, qui s'abaisse avec cet esprit de montrer de la bonté envers un être inférieur. C'est la manière qu'il se présente devant Dieu dans sa prière. Comprenons bien que Dieu, que toutes les bénédictions de Dieu trouvent leur source dans la grâce et la miséricorde de Dieu. Il nous bénit, non à cause de nous, mais malgré nous. Il nous bénit à cause de lui. Les versets 3 et 4 nous disent « Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut, les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. » Ne manquez pas cette liaison. « Afin que, Seigneur, montre-moi de la pitié, afin que tous les peuples. » Je ne demande pas autant ta pitié, Seigneur, et tes bénédictions pour mon bienfait seul. Ça sera une partie des conséquences bénéfiques, mais surtout pour que Dieu puisse être loué, glorifié et adoré devant tous les autres. Je vais être béni. C'est un bien personnel dont je vais pouvoir profiter, mais tous les dons de Dieu, toute bénédiction est toujours liée à la gloire de Dieu et non pour mon plaisir seul. Quand Dieu me bénit, je dois me rappeler à chaque fois, tu ne m'as pas béni juste pour que je garde ça pour moi. Mais tu m'as béni pour que tu puisses être honoré et glorifié à travers cette bénédiction d'une manière ou d'une autre. Si on ne veut pas prendre le temps, nous, de louer Dieu pour ses bénédictions, ne soyons pas étonnés de voir la peur et la crainte revenir dans notre cœur parce que les bénédictions de Dieu ne nous touchent plus comme avant. Quand nous demandons à Dieu de pourvoir et bénir, n'oublions pas que ce n'est pas juste pour notre confort et notre besoin. Juste parce qu'on veut que ce problème s'en aille, mais que nous voulons également utiliser ces bénédictions pour donner à Dieu toute la louange et la gloire qui lui revient. Notre espérance ne vient pas du fait que nos besoins sont pourvus, mais que Dieu nous aime, qu'il est notre Dieu et prend soin de nous. C'est pourquoi, quand on prie pour un besoin spécifique et que Dieu dise non, ça ne change pas notre attitude envers lui. Parce que l'accent n'est pas mis sur le fait qu'il réponde à nos besoins comme on veut. Notre accent est mis sur Dieu, celui qui me donne des bénédictions que je ne mérite pas pour commencer. Parce que des besoins, vous savez, on en aura toujours. Une vie sans besoin n'existe pas. Jusqu'à la fin de notre vie, on aura toujours des besoins, certains d'une intensité plus grande que d'autres. Et notre joie et notre confiance n'est donc pas liée à ce que nos besoins sont pourvus. Mais elle est liée directement à ma communion personnelle avec Dieu, qui est mon Dieu à moi. Et c'est pour cela que vous avez tellement de témoignages de gens qui passent par des moments de souffrance réelle, qui ont des problèmes physiques et de santé réels, et qui continuent à avoir le sourire, qui continue à louer le Seigneur, qui continue à glorifier Dieu, malgré des circonstances qui, pour beaucoup, les terrasseraient. Parce que leur joie, leur espérance ne vient pas dans les circonstances, elle se trouve dans la personne même de Dieu. Notre espoir vient dans un Dieu qui prendra soin de nous, qui peut pourvoir, qui prouve une fois de plus son amour, sa compassion, sa grâce et sa bonté. Comment ne pas le louer encore et encore et non laisser place aux craintes qu'amènent les circonstances et les difficultés. Les versets 5 et 6 nous disent « Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. » Pause. « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. » Nous ne nous laissons pas les distraire en nous demandant « Mais est-ce que vraiment les nations et les peuples sont effectivement en train de louer Dieu ?» Mais demandons-nous plutôt « Est-ce que je suis en train ?» de faire cela. Est-ce que sommes-nous en train de louer Dieu dans notre vie personnelle et sommes-nous en tant qu'Église en train de louer et d'être dans l'allégresse parce que notre confiance, notre espoir se trouve en l'Éternel. Voyez comment le psaume commence avec une prière. Que Dieu ait pitié de nous. C'est une requête. Et le reste du psaume est un chant de louange et d'action de grâce. Et les deux devraient toujours être intermêlés. Et peu importe, on l'a dit dans le passé ici déjà, peu importe si je prie pour confesser mes péchés, je ne peux terminer ma prière sans louer et adorer Dieu. Peu importe si je prie pour demander à Dieu de pourvoir pour un besoin, même que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, je ne peux terminer cette prière pour ce besoin sans louer et adorer Dieu. Je peux même déjà le remercier pour sa réponse à venir, même si elle est contraire de ce que j'aurais voulu qu'il dise. Même si une prière est très très spécifique pour un besoin en particulier, je ne peux terminer sans parler de la bonté de Dieu, de son amour, de sa grâce, de sa force. Je ne peux terminer sans montrer que je lui fais entièrement confiance à cause de qui il est. Même si je mentionne un nouveau besoin, comment ne pas dire merci pour toutes les fois où il a déjà répondu à tous nos autres besoins avant. Intercession et louange et adoration devraient toujours aller ensemble. Il est bon pour l'Église et ses membres individuellement à avoir cette attitude de mélanger requête et action de grâce dans leur prière. Pas juste en parole, mais en action et avec vérité, dans la façon que nous vivons. Parce que c'est facile de le dire avec nos paroles quand on prie à voix haute. Mais il voit également ce qu'on pense, ce qu'il y a dans notre cœur et surtout comment on agit et réagit quand il permet certaines situations désagréables survenir sur nous pendant la semaine. Même des choses qui nous prennent au dépourvu, auxquelles on ne s'y attendait pas, ils nous prennent par surprise. Après l'initial, c'est bon, je sais qui est Dieu, je sais qui est mon Dieu, je sais qui est en contrôle. Ce n'est pas juste dans nos prières quand on est ensemble, mais dans notre façon de vivre, notre façon d'agir, de réagir face aux circonstances devant nous. Je ne peux pas dire à Dieu dans ma prière que je sais qu'il est tout-puissant, que rien ne lui est impossible. Je ne peux pas dire dans mes prières que je sais qu'il ne se trompe jamais dans ses réponses et ensuite perdre espoir parce que nous n'avons pas eu la réponse qu'on voulait au moment qu'on voulait. Et verset 8 nous dit « Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent ». Vous voyez, ce n'est pas ainsi Dieu nous bénit, mais Dieu nous bénit. Ce n'est pas juste une connaissance, ça ne suffit pas de lire ceci et dire « Oui, c'est vrai, je peux dire que Dieu m'a béni ». Ça ne suffit pas. Parce que ici, il nous dit, même avec le verset 7, c'est la même chose, « Dieu, notre Dieu, nous bénit ». Ça devrait changer notre façon de vivre et de penser du fait que Dieu nous bénit. Ça ne parle pas seulement du passé ou du présent, ni seulement du futur, ça englobe le tout. Il n'a pas dit « Dieu nous a bénis » ou « que Dieu va nous bénir ». Dieu nous bénit, c'est un constant, toujours, chaque jour de ma vie. Il n'y a pas une seule journée que vous pouvez me montrer que je puisse dire « dans cette journée-là, Dieu ne m'a pas béni ». C'est à l'infini. Dieu bénit, aujourd'hui, hier, demain et pour toujours. Il continue à me bénir aujourd'hui et je sais qu'il va encore me bénir demain et après. Peu importe les circonstances, peu importe mes émotions, qui peuvent être très fortes parfois, mes émotions qui changent tout le temps, Dieu reste le même. Et Dieu a promis de bénir ses enfants. Alors, avant de vous lire un dernier passage en Romains pour conclure cette prédication, comprenez bien que notre espoir vient du fait que Dieu est digne de confiance. Nous avons placé notre foi pour le salut de notre âme. Il n'a pas failli, n'est-ce pas? Il ne nous a pas déçus. Il a fait comme il a promis. Il nous a pardonné de nos péchés. Il nous a lavé, effacé la dette de notre péché. Il nous a donné une nouvelle vie en Christ. Il a donné le Saint-Esprit comme il a promis. Il nous a conduits chaque jour en attendant son retour. La crainte de notre avenir éternel a été remplacée par la joie de son salut. Alors pourquoi ne pas le laisser également remplacer la crainte d'un avenir incertain par la promesse de sa présence continue? Il est mon Dieu à moi. Dieu, notre Dieu, nous bénit. C'est une promesse, une certitude. quelque chose qui de donner l'espoir qui enlève toutes les craintes et les doutes. Les choses. Quand Dieu nous dit, je suis ton Dieu et je veux te bénir. Dieu nous dit, je suis plein de grâce et je suis plein de miséricorde. Je suis ton Dieu, j'aime bénir ceux qui m'appartiennent. Alors, quelle joie nous devrions avoir. Une joie et une paix qui surpassent le poids de nos difficultés. Encore une fois, ça ne les enlève pas. On doit y faire face souvent. On verra bien plus tard à quel point ces difficultés nous ont aidés à grandir, à mûrir, à devenir plus forts. Mais ces difficultés, maintenant, ne prennent pas toute notre attention non plus. On prend le temps de placer notre cœur et nos regards sur Dieu qui aime bénir. Les choses désagréables et difficiles du moment ne vont pas durer pour toujours. Ce qui dure, en revanche, pour toujours, sont les bénédictions de Dieu. Il nous a déjà bénis et il continue à nous bénir aujourd'hui. Il n'y a absolument aucune raison de douter qu'il va continuer à nous bénir demain non plus. Laissez-moi vous lire Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Il vous dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons, pas nous espérons recevoir, mais nous avons déjà en présent, la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. » Pas facile, n'est-ce pas ? Sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance, l'espoir, cette certitude. Or, l'espérance ne trompe point. Cette espérance, l'espoir que nous avons dans la personne de Dieu ne peut pas nous tromper parce que Dieu ne peut pas faillir. L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour vous ou pour moi cette semaine, ce mois, si Dieu le permet, cette année. Mais je garde espoir. On sait que ce ne sera pas toujours facile, mais on sait qu'il y aura des bénédictions. Il est notre Dieu. Et il aime bénir. Prions, s'il vous plaît.